1 Corinthiens chapitre 15, dont ma Bible c'est à la page 1154. Donc, nous allons lire ensemble avec Fatima va nous lire des versets 1 jusqu'à 22. Merci.
Chapitre
15, 1 jusqu'à 22.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi revivront en Christ.
Merci Fatima. Je vais continuer avec une petite lecture de l'Ancien Testament. Il ne faut pas le tourner. Gardez vos Bibles ouvertes à 1 Corinthiens. Mais... pensez si vous pouvez savoir quel est le lien entre ce que nous venons d'entendre et ce que je lis maintenant. C'est de l'Exode, le chapitre 12. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. J'ai une question à vous poser. Avez-vous un bon mémoire? Voici un petit test. Qui est ce monsieur?
Jacques Chirac.
Et il a été élu comme président quand?
De 1995 à 2007. Double mandat.
Oui, la première fois.
1995.
Il y a 22 ans, presque précisément, il y a 22 ans. Il y a une raison que j'ai choisi cette date. Peut-être vous vous souvenez de la journée de l'élection du président pour la première fois. Vous savez où vous étiez quand vous avez entendu les nouvelles, peut-être?
Je ne me connais pas, j'avais 5 ans.
Oui. Il y a quelques-uns qui n'étaient pas même nés. Mais une autre question qui s'agit de la même journée que vous avez entendu ces nouvelles. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi?
J'en sais rien.
Non. Personne ne le sait, parce que ce n'est pas une chose importante. Et la mémoire, on l'utilise pour les choses importantes, n'est-ce pas? La capacité de nos mémoires est limitée. Et il nous suffit de nous rappeler des choses les plus importantes. Mais il y a un risque même d'oublier les choses les plus importantes, même la chose la plus importante dans votre vie. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Quelques gens diraient la santé, la famille, mon travail, mon bonheur. Si vous êtes chrétien, selon la Bible, la chose la plus importante, c'est le fait que Dieu vous aime et qu'en Jésus-Christ, il vous a sauvé. Est-ce qu'il est possible d'oublier cela? Évidemment, oui, parce que Paul, en 1 Corinthiens, pense qu'il est nécessaire de dire « rappelez-vous » aux Corinthiens. Ce n'est pas une question, c'est une commande. Au verset 1 du chapitre 15, « rappelez-vous de l'évangile que je vous ai annoncé. » L'oubli est une faute fréquente chez le peuple de Dieu. L'oubli des choses, des vérités, des événements les plus importants. Ici, les dimanches, dans l'église, nous louons le Seigneur et en le remerciant pour son salut, ses bénéfices. Mais est-ce pareil pour nous pendant la semaine, au travail, au collège, avec nos amis? Avez-vous un bon mémoire pendant la semaine? Dans la Bible, nous voyons qu'il y avait beaucoup de gens comme nous qui avaient l'habitude d'oublier de ce que Dieu avait fait pour eux. Dans l'institution de la Pâque, le passage de l'Exode que j'ai lu, Dieu donne à son peuple les instructions claires, pas seulement afin qu'ils se souviennent de leur délivrance, mais pour la transmission de ces mémoires aux enfants pas encore nés. Malgré ça, les Israélites que Dieu délivra de l'esclavage dans l'Égypte ont tout de suite oublié Dieu en se tournant vers l'image du veau d'or. Dans le livre des Juges, nous lisons que chaque fois qu'ils étaient opprimés par ses ennemis, le peuple se tourna vers Dieu. Dieu les délivra. Mais après, ils oubliaient encore une fois, leur délivrance. Partout dans les psaumes se trouvent des exhortations de se rappeler des actes salvateurs de Dieu. Par exemple, psaume 78. Il ne faut pas le tourner, je vais lire des versets 3 jusqu'à 7. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Ce psaume raconte toute l'histoire des actes salvateurs de Dieu pour Israël dès leur début jusqu'au roi David. Nous ne sommes pas les Israélites de l'Ancien Testament. De notre perspective, nous pouvons voir tout le panorama des deux testaments. Nous voyons que les relations entre Dieu et Israël sont pour nous une indication du salut en Jésus-Christ, le vrai agneau de Dieu, notre libérateur du péché et de la mort. Et Paul nous dit, rappelez-vous de cela, n'oubliez pas C'est le même message. Rappelez-vous de quoi exactement? Paul explique dans les versets 3 et 4 dans 1 Corinthiens 15, « Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » C'est l'évangile, ce dont il parle en verset 1. Avez-vous jamais essayé d'expliquer l'évangile à un ami? Comment savoir où commencer? Avec la création? Avec Noël, peut-être? Voici, en 1 Corinthiens, le guide simplifié de Paul. Premier point, c'est quelque chose à recevoir de Dieu. L'évangile n'est pas quelque chose qu'un homme pourrait imaginer. Avez-vous entendu quelqu'un dire « J'aime penser de Dieu comme quelqu'un qui… » Voilà un Dieu imaginaire. Le Dieu de l'évangile, de la Bible, n'est pas une idée humaine, mais le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. L'évangile est quelque chose, dit Paul, que vous avez reçu. Pas imaginé, pas inventé, pas fabriqué, reçu. Vous avez entendu, vous avez reçu. Deuxième point. Christ est mort pour nos péchés. Nous sommes des pécheurs qui méritent le jugement et la condamnation de Dieu. Mais Jésus a été condamné dans notre place. Il est mort sur la croix. Et a souffert la peine pour nous. Troisième point, ce n'était pas un accident. Ce plan a été prévu par Dieu et révélé dans les Écritures. Deux fois, il dit « selon les Écritures ». Quatrième point, il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est ça l'évangile que Paul a lui-même annoncé aux Corinthiens quand il les avait visités, qu'ils avaient reçu et par laquelle ils ont été sauvés. Et ils l'oubliaient. Ce qui inquiète Paul dans ce chapitre, c'est spécifiquement que les Corinthiens oubliaient ce qu'ils avaient appris de la résurrection. Ils avaient l'idée, peut-être, que la résurrection n'était qu'une idée spirituelle, un passage au monde spirituel. Vous avez peut-être entendu dire de quelques personnes trépassées qui vivent toujours. Elvis vit toujours. Johnny Hallyday vit toujours. Che Guevara, Mahatma Gandhi vivent toujours. Non, ces personnes sont défunts. Mais la résurrection de Jésus fut une résurrection corporelle. Le cadavre mort de Jésus est redevenu un corps vivant. Comment est-ce que nous pouvons savoir cela? Paul parle des faits historiques et de leur centralité à l'Évangile. Voilà une énorme différence entre le christianisme et les religions du monde. Pour eux, les enseignements de, par exemple, le bouddhisme, le hindouisme, l'islam, ne dépendent pas sur les faits historiques des vies des fondateurs. Selon Paul, ce n'est pas du tout le cas avec le christianisme. Ce dernier est fondé sur les faits historiques concernant la vie d'une personne, Jésus-Christ. Si les faits sont incorrects, votre foi est vaine. Et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ça qu'il écrit. Mais les faits peuvent se vérifier. Comment est-ce qu'on peut les vérifier? Comment est-ce que nous pouvons être sûrs de ces faits? Premier point, par les Écritures. Laissez-moi vous transporter quelques moments à Jérusalem, quelques jours après la crucifixion. Nous en lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 24, deux disciples en route pour Emmaüs avaient avec eux un compagnon. Ils ne comprennent pas que c'est Jésus. Mais notez que Jésus ne dit pas « Regardez, c'est moi !» Il aurait pu le faire. Mais il ne le fait pas. Commençant avec Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En Jean chapitre 20, verset 9, Pierre et Jean avaient vu le tombeau vide. Mais selon Jean, ils ne comprenaient pas que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Des Écritures qui prophétisaient l'incarnation, la passion, la résurrection sont en première place comme évidence. Jésus et Paul ont donné les Écritures comme la source la plus importante de connaissance de la résurrection. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec cette opinion? Nous avons déjà entendu ce matin de la transfiguration. L'apôtre Pierre était témoin de cette transfiguration de Jésus. Une expérience bouleversante de la présence de Dieu. Et quand même, il écrit le suivant. Nous avons entendu ce voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. À Thomas, Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est-à-dire nous. Et heureux nous, parce que à la différence des disciples qui n'avaient que l'Ancien Testament, nous avons aussi le Nouveau Testament. Et c'est là que nous trouvons le deuxième point d'évidence, les témoins oculaires. Imaginez qu'il y a eu un crime. Quelqu'un a été attaqué et la police m'accuse. Ils disent, c'était votre ennemi, cet homme. Oui, c'est vrai, c'était mon ennemi, mais ça ne me rend pas coupable de l'avoir attaqué. Nous avons ce couteau avec vos empreintes. Oui, c'est mon couteau. Je l'ai perdu hier. Ça ne vous dit rien. Billy Allardyce vous a vu attaquer la victime. Un témoin oculaire, fiable. Évidemment, je suis coupable. C'est le témoin oculaire qui est conclusif. Un témoin oculaire rend l'évidence le plus fort possible pour les faits. Et dans ce passage, Paul nous dit qu'après la résurrection, il n'avait pas un seul témoin, mais il y avait Cephas, c'est-à-dire Pierre, les apôtres, plus de 500 personnes à la fois, la plupart toujours vivants, Jacques, les apôtres encore, et enfin lui-même, Paul. Et Paul a écrit ces mots 22 ans après la résurrection. C'est ça, la distance entre nous et Chirac, la distance entre Paul, ce que Paul écrit, et les événements de la résurrection. C'est de l'histoire récente. Il y a beaucoup de témoins. J'ai trouvé des témoins ici pour l'élection de Chirac. Il y a bien de témoins oculaires pour ces faits. Ceux qui le désirent ont toujours le droit de consulter ces témoins, écrit Paul. Ce qu'a fait par exemple l'évangéliste Luc Au début de son évangile, Luc écrit « Ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires ». Dans le chapitre 15, Paul explique les conséquences. S'il soit le cas, comme disaient quelques-uns à Corinthe, qu'il n'y a pas de résurrection. Sa conclusion, dans ce cas, notre prédication est vaine. Votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, verset 20, il n'y a aucun doute. Jésus-Christ est ressuscité. Paul a fait son argument conclusif. Mais il ne le fait pas simplement pour corriger une erreur chez les Corinthiens. Il y a un message très important pour eux et également pour nous. C'est que la résurrection de Jésus nous touche chacun. Dieu a créé un monde parfait. Mais après la chute, la mort est entrée comme résultat de péché. Mais à la mort de Jésus sur la croix, ce processus est fini. Et avec la résurrection commence la nouvelle création. Le processus du péché et de la mort est désormais en marche arrière. La résurrection montre la victoire de Jésus sur le péché. Et la preuve de cette victoire, c'est sa victoire sur la mort. Le royaume de ce monde commence à disparaître. Le royaume de Dieu arrive et nous en faisons partie. C'est pourquoi, dit Paul, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Les actes salvateurs de Jésus concernant notre passé, notre rébellion, notre besoin pour le pardon, mais ils concernent également notre futur. La résurrection de Jésus est les prémices, le début de l'avenir du royaume de Dieu, dans laquelle tout sera soumis au Seigneur et dans laquelle le dernier ennemi, le mort, est vaincu. Est-ce que ces faits sont une réalité pour vous? Si vous êtes croyant, réjouissez en eux. Rappelez-vous de l'évangile qui vous a été annoncé, dans laquelle vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Et si vous n'êtes pas encore certain, sachez que la certitude est possible. Prenez le temps de penser à ces choses et de baser votre vie sur les évidences sûres que Dieu vous a déjà données.